Bien, alors chers amis, cet après-midi nous allons plonger dans l'épître de Paul aux Éphésiens, mais en fait ça n'a rien d'évident parce que tout semble concourir à dire que ce n'est pas une lettre de Paul. Alors je l'ai quand même mis dans les lettres de Paul parce qu'il y a 20% de chances qu'elle soit une lettre de Paul, c'est vous dire. Mais tout le monde s'accorde à dire que si ce n'est pas une lettre de Paul, en tout cas, c'est une lettre qui expose une théologie paulinienne. Et si ce n'est pas une lettre de Paul, manifestement, c'est une lettre qui a été écrite par l'un de ses disciples. Alors, je vais vous faire circuler un petit papier qui va vous donner une des raisons pour lesquelles on pense que ce n'est pas forcément une lettre de Paul. Quand je dis que ce n'est pas une lettre de Paul, pour moi, ça n'a pas un effet très déterminant. Avant que ce soit une lettre de Paul ou non, c'est d'abord un texte du Nouveau Testament, c'est d'abord un texte biblique. Et le fait que ce texte soit dans ce qu'on appelle le canon des Écritures, dans la liste des textes qui sont considérés comme ayant une forme d'autorité pour les questions de foi, bien le fait que cette lettre soit dans cette liste-là suffit déjà à lui donner de l'autorité et donne de bonnes raisons de s'y intéresser. En disant que cette lettre n'est probablement pas de Paul, c'est une manière de dire que nous en faisons une lecture intéressée, une lecture qui ne s'intéresse pas simplement à la lettre, mais qui s'intéresse aussi au contexte dans lequel cette lettre a vu le jour. Et ça sera important par rapport à des thématiques qui ont un caractère social, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ce qu'un texte biblique peut dire sur une situation sociale doit être replacé dans son contexte. Il ne doit pas être appliqué à la lettre sans ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire ce voyage qui nous permet de rejoindre l'auteur dans la pensée ambiante dans laquelle tel texte a pu voir le jour. Alors ce que je vous ai fait passer comme papier, c'est un petit tableau qui a été établi par l'exégète Brown et qui met en évidence les liens qu'il y a entre l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. Vous voyez, il y a une colonne avec les références bibliques de la lettre aux Éphésiens, à droite, les références bibliques de l'épître aux Colossiens, dont tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas une épître paulinienne. Et donc, l'idée est que s'il y a beaucoup de contacts littéraires entre l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens qui n'est pas une épître paulinienne, c'est que l'épître aux Éphésiens n'est pas non plus une épître paulinienne. Qu'est-ce qui fait dire aux exégètes que ce n'est pas une épître paulinienne? C'est la question du style. Pour le dire un peu vulgairement, l'épître aux Éphésiens est très lisible. Ce qui laisse entendre que ce n'est pas une épître écrite par Paul. Pour le dire de façon moins vulgaire, la rhétorique n'est pas construite sur la rhétorique classique que je vous avais présentée à la première séance avec la structure de la lettre. Et puis, il y a des éléments qui sont peut-être plus probants quand même. Alors, ceci étant, je finis juste avec le petit tableau qu'on ne va pas étudier de près, mais qui vous permet aussi de voir quels sont les thèmes qui sont évoqués par cette épître. On ne va pas parcourir toute l'épître, on va juste mettre un coup de projecteur sur quelques versets. Et donc, ça vous permet de voir quelques thématiques qui sont assumées par cette épître aux Éphésiens. Et si on pense que l'épître aux Éphésiens n'a pas été écrite par Paul, c'est qu'il manque notamment, vous savez, tous ces détails personnels qui constellent les autres épîtres. Par exemple, des adresses personnelles, aussi bien du côté des collaborateurs de Paul que du côté des personnes de la communauté auxquelles il s'adresse. Alors, il y a bien tout à la fin de l'épître une mention d'un collaborateur. Mais on se souvient que dans l'épître au Philémon, c'était une dizaine de personnes qui étaient mentionnées. Bon. Et donc là, vous voyez, ça contraste beaucoup. Il y a aussi le fait que cette façon que Paul a d'écrire ne se réfère pas vraiment à une histoire commune. Vous voyez, il ne fait pas référence à ce qui a été vécu entre la communauté et lui. Il donne même le sentiment dans cet épître de découvrir la foi de la communauté. Au chapitre 1, verset 15, l'auteur de l'épître écrit « avoir entendu parler de leur foi en Jésus ». Si c'était Paul qui a été à Éphèse, il ne dirait pas qu'il a entendu parler de leur foi, sauf si c'est une façon de dire que après son passage, il a entendu parler de leur foi grandissante. Toujours dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 2, « Il présume que les destinataires ont entendu parler de la grâce que Dieu lui a confiée. » Il présume que les destinataires ont entendu parler de la grâce. Vous voyez, c'est comme s'ils ne connaissaient pas les destinataires. Et puis, toujours au chapitre 3, les versets 7 à 13, l'auteur explique son ministère. Ce qui est très curieux, s'il s'agit de Paul, puisque, évidemment, les membres de la communauté d'Éphèse, ayant eu l'occasion de rencontrer Paul, n'auraient pas besoin de détails sur le ministère de Paul. Donc, voyez le fait qu'il y ait, sur les 155 versets de l'Épître aux Éphésiens, un tiers qui soit en correspondance avec l'Épître aux Colossiens. Qu'il y ait un quart des mots dans Colossiens qui soient dans l'Épître aux Éphésiens et qu'il y ait un tiers des mots de Colossiens dans l'Épître aux Éphésiens laisse entendre qu'il y a des contacts littéraires. Et puis il y a, comme je viens de vous les évoquer, des données internes qui, sur le plan de l'histoire de la rédaction, nous laissent entendre que nous pouvons penser que ce n'est pas une lettre signée de la main de Paul. Si elle avait été de Paul, c'est une lettre qui aurait été écrite dans les années 60, estiment les exégètes. Si elle n'est pas de Paul, on estime qu'elle est des années 90. Pour mémoire, Paul a passé 3 ans à Éphèse. C'est ce que raconte le livre des Actes. Et vous pouvez vous référer au chapitre 20, verset 31. On estime que c'est dans les années 54-57 qu'il passe ses 3 années à Éphèse. Vous voyez donc la non-personnalisation de cette lettre est d'autant plus étonnante. Cette lettre n'a pas toujours été appelée lettre aux Éphésiens d'ailleurs. Il y a beaucoup de manuscrits, et notamment les meilleurs manuscrits. Alors pour votre culture personnelle, il y a le papyrus 47, le fameux Chester Beatty 2, qui date des années 200. Il y a le Sinaiticus et le Vaticanus, qui n'ont pas la mention d'Éphèse. Alors une hypothèse est qu'en fait c'était une lettre circulaire sur laquelle on mettait le nom de la communauté ou le chef de la communauté allait la lire. Une autre hypothèse est qu'en fait primitivement c'était une lettre aux Laodicéens. Marcion, qui a été considéré comme un hérétique par les églises primitives, Marcion appelait cette lettre aux Laodicéens. Et alors une hypothèse qui semble tout à fait intéressante, c'est que on a cessé de l'appeler lettre aux Laodicéens en raison de la mauvaise réputation de Laodicée. Et il suffit de se référer au livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 15 à 16, pour prendre conscience que Laodicée a mauvaise presse. Et donc, vous voyez, intégrer dans le corpus biblique une lettre adressée à une communauté qui avait mauvaise presse, c'est un peu dévaloriser le reste des textes bibliques. Et donc, rapporter cette lettre à Éphèse, c'est peut-être une façon de lui redonner une autorité. Je précise bien que ce sont des conjectures. Mais ces hypothèses me semblent assez intéressantes. Pour nuancer un peu cette hypothèse selon laquelle cette lettre ne serait pas une lettre de Paul, il faut aussi constater qu'il y a quand même beaucoup de contacts avec les lettres qui sont attribuées à Paul de façon incontestable, en particulier l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates, les 2 épîtres aux Corinthiens. Et il y a donc une véritable affinité entre la pensée de Paul et cette lettre. Alors, du coup, on a pu penser que C'était un membre de l'école paulinienne à Éphèse qui avait donc rédigé, et c'est ce que je laissais entendre la fois dernière, peut-être Onésime, le Onésime de l'épître au Philémon qui serait devenu évêque et qui aurait compilé, rassemblé les lettres de celui qui était son maître spirituel et qui lui avait donné accès à la liberté. Et comme une sorte de reconnaissance, il aurait été son disciple qui se serait évertué à transmettre sa pensée et à transmettre sa mémoire, finalement. Et qui, du coup, aurait écrit cette lettre à partir des lettres de Paul. Une sorte de synthèse de la théologie de Paul. Alors, avant d'entrer dans le passage qui va nous mobiliser aujourd'hui, je vous fais un petit portrait de la lettre aux Éphésiens. Peut-être déjà, il y a des questions là-dessus, quand même, sur les attributions, sur la méthode, etc. Vous avez le droit aussi de réagir et d'apporter d'autres éléments contradictoires. Et là, ce n'est pas une question rhétorique. Si vous avez des choses à faire valoir, on les fait valoir. Sinon, on va encore se retrouver où je vais parler pendant 1h25. Bien. Alors, rapidement, cette lettre commence par une action de grâce, une doxologie, somme toute assez classique, même si elle n'est pas personnalisée. Si vous prenez donc une édition critique, vous verrez que Éphèse est entre crochets. Même sur la mienne, c'est entre crochets, hein, sur cette traduction Louis II. Parce que la mention fait donc défaut dans de nombreux manuscrits. Il y a une première partie, c'est du chapitre 2 au chapitre, à la fin du chapitre 3, qui est à l'indicatif et qui est une sorte d'instruction, une sorte de catéchèse. C'est à l'indicatif. Et ensuite, les chapitres 4 à 6, verset 20, sont en quelque sorte un impératif. Et c'est une parénèse, une exhortation. Donc il y a à l'indicatif une sorte d'éducation, et puis ensuite, une fois que les bases ont été posées, on exhorte. Le discours parénétique, c'est en quelque sorte une injonction. Avec des thèmes assez importants comme en quoi Dieu sauve, l'activité unifiante et révélatrice de Dieu. Au chapitre 2, versets 11 à 22, il y a un passage intéressant, je vous l'évoque, et je vous rends attentif au fait que c'est peut-être celui-là qu'il faudrait lire par les temps qui courent. Il y a une sorte, donc au chapitre 2, à partir du verset 11, une sorte de description lyrique de la manière dont la grâce de Dieu a été étendue aux gentils, c'est-à-dire aux païens, c'est-à-dire aux étrangers, c'est-à-dire à ceux que l'on ne considérait pas dignes d'être croyants. Et donc, l'universalisme paulinien s'exprime, là, de façon assez belle, dans ce chapitre 2, à partir du verset 11. Et il dit que ceux qui étaient au loin sont devenus proches. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant par rapport à nos problématiques contemporaines sur, bien sûr, la question du prochain, mais aussi du multiculturalisme, de certains qui voudraient qu'il y ait un conflit de culture, un choc culturel, et ceux qui voudraient que ceux qui sont au loin restent au loin, etc. Il y a dans ce passage matière à penser. Et il dit « Le mur de la haine a été détruit ». Et c'est ce qui va lui permettre de promouvoir l'unité. Donc, précisément, ensuite, il y a au chapitre 4, au chapitre 5, des questions sur l'unité, sur le ministère pastoral, sur l'éthique, sur la façon de se tenir, avec quelque chose qui est un petit peu manichéen. D'un côté, les enfants de lumière, et de l'autre, les œuvres des ténèbres. C'est un peu manichéen, cette affaire. Le chapitre 5, à partir du verset 21, c'est celui que nous allons étudier. Et puis, au chapitre 6, il y a question de l'armure dans le combat, dont la prière fait partie. L'armure dans le combat, ça a été notamment la source d'inspiration de quelques cantiques du réveil, dans le combat contre le mal, où les paroissiens de l'oratoire iront jusqu'à lutter à genoux, quoi que ce soit, une cohorte sainte et bien debout. Voilà. Donc, une épître aux Éphésiens qui a été source d'inspiration aussi bien pour les questions liturgiques que ce qu'on appelle l'hymnologie, c'est-à-dire les chants protestants, les cantiques. Alors, on va s'intéresser à ce chapitre, à la fois parce que je ne voulais pas qu'on esquive, dans ce parcours des épîtres de Paul, la question du statut de la femme, et on était au plus proche du 8 mars, d'autant qu'en général, notre assemblée est assez bien représentée par la gente féminine, donc on a de quoi pouvoir non pas ferrailler, mais profiter de l'expérience des uns et des autres, et surtout de l'interprétation des uns et des autres, voir comment ça a été vécu et comment c'est compris. Et puis voir que le rapport homme-femme s'inscrit dans un rapport plus large de ce que j'ai appelé les relations interpersonnelles, de ce que l'exégète Brown appelle le code domestique, c'est-à-dire homme-femme, parent-enfant, maître-esclave. Et on aura l'occasion de pouvoir aussi convoquer d'autres textes bibliques de Paul sur la question du rapport homme-femme. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être que nous commencions par lire l'ensemble de ces versets que j'ai retenus, et puis après on rentre dedans verset par verset. Donc on peut se partager peut-être la lecture, quelqu'un qui lit la fin du chapitre 5, et puis quelqu'un qui lira le début du chapitre 6. Ah, mais j'ai pas distribué le texte. Ceci dit, vous avez des Bibles. Non, vous n'avez plus de Bible, du coup. Bon. À partir du mois prochain, j'envisage le sevrage. Donc, je vous fais passer la feuille avec le texte. Voilà, vous êtes mal habitués, hein. Avec la version de Louis II, et puis le texte grec sur la gauche. Donc je l'ai découpé à partir du verset 21, quoique des fois on commence directement avec « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est de commencer avec le verset qui précède. Mais c'est bien sur ce verset-là que j'ai choisi ce passage, pour qu'on puisse en discuter. Parce que si on ne prend que les textes bibliques qui ne posent pas de problème, bon bah autant rester chez soi. Voilà. Bien. Alors, si quelqu'un pouvait entreprendre la lecture de la fin du chapitre 5, c'est-à-dire le haut de la colonne de droite, et puis ensuite à partir du chapitre 6 pour une autre personne peut-être.
Bien, je partage.
Allez-y.
Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
Est-ce que quelqu'un peut prendre la suite? Oui.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne.
Alors dites-moi, combien parmi vous ont eu le droit à « Femmes, soyez soumises à vos maris » pour la prédication de bénédiction nuptiale ?
Moi, j'ai refusé.
Ah, ça vous a été proposé. Parce que c'est pas que c'était un grand classique. Ah, maintenant, plus aucun couple ne voudrait en entendre parler, ou alors par provocation, pour voir comment le prédicateur va s'en sortir. Mais il fut un temps où il me semble que c'était l'usage. Et que cela participait d'un ordre accepté. Sauf pour les vrais libéraux qui, justement, ne voulaient pas en entendre parler. Ah oui, mais il fallait négocier quand même. Ah oui.
Moi.
Oui, en tout cas, n'aurait-il pas été pour le prendre à la lettre. Parce que moi, mon propos, ça va être d'essayer de vous le faire entendre autrement que sous la lecture littérale qui dirait que les femmes doivent s'écraser devant leur mari, grosso modo, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc vous n'avez pas vraiment subi ce verset-là. Vous étiez déjà assez émancipé et libre. Très bien. Donc pour vous, c'est plus exotique qu'autre chose. C'est pas forcément un lieu de souffrance particulier. Parce que pour certains, ce passage-là notamment est la raison pour laquelle Paul est inaudible. Avec d'autres passages que je vais évoquer, avec les femmes qui ne devraient pas prendre la parole dans les assemblées, qui devraient être voilées dans d'autres passages, etc. Parce que certaines, en l'occurrence, disent de Paul qu'il est misogyne. Pour savoir si c'était un peu votre avis, non, vous avez plutôt une sorte de bienveillance à l'endroit de Paul. C'est une époque qui voulait ça. Alors, je vais essayer de montrer que Paul n'est pas que le fruit de son époque. C'est-à-dire que Paul n'est pas que dans un conformisme au fait que c'était normal qu'à l'époque les femmes soient esclaves de leur mari, pour dire les choses aussi précisément que possible, et que Paul dit autre chose en fait, qu'il est un peu dans la subversion, et que c'est pas parce que c'était il y a 2000 ans que, après tout, c'est acceptable. Mais c'est parce que pour dire que c'est une épître qui n'est pas de Paul, il faut s'être un peu intéressé à la question du texte de façon, je dirais, scientifique. Et si on fait une lecture littérale de ce texte, vous comprenez bien qu'on ne va pas s'encombrer d'une approche historico-critique. Et vous voyez, dans les débats d'éthique, par exemple, notamment avec les courants orthodoxes de nos religions, que ce soit de Paul ou pas, c'est un texte biblique. Et donc, ce n'est pas le fait que ce soit de Paul ou pas qui change la donne. Et quand j'entends certains qui me disent « Ah, mais ce n'est pas de la main de Paul, donc on n'a pas besoin d'en tenir compte de ce texte », je dis « Bah si, c'est un texte biblique, donc il faut bien qu'on en fasse quelque chose. »
Oui, on n'a pas accusé Paul.
On n'a pas accusé Paul d'un tort qu'il n'a pas commis. Alors, voyez, ce premier verset que souvent on oublie est à mon avis décisif parce que c'est vraiment une clé d'interprétation pour toute la suite. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Allélus, les uns aux autres. Donc il y a une réciprocité. Là où on se dit que nous sommes vraiment dans une sorte de verticalité où la femme serait écrasée par l'homme, il y a dès le départ l'idée que tout ce qui va suivre est mis sous l'angle de la réciprocité, les uns les autres. Allélus. Oui.
La réciprocité, il demande aux femmes d'être soumises à leur mari et il demande aux maris d'aimer leur femme. Pourquoi cette asymétrie
Alors, ça, on va y... ni aux hommes d'être soumis à leur femme. Absolument. Donc, il y a une réciprocité et pas forcément une symétrie. Mais on va voir... Alors, moi, je pense que pour une part, Paul est sexiste. Sexiste comme le sont beaucoup d'hommes qui, par exemple, tiennent les règles de galanterie pour applicables. Vous voyez, par exemple, le fait de considérer qu'il faut entrer le premier dans un restaurant pour éviter que la femme attire sur elle l'attention, etc. C'est sexiste dans une certaine mesure. Je trouve ça élégant, mais c'est sexiste. Hein, finalement, ça renvoie toujours à l'idée qu'il y aurait un sexe faible. Et de ce point de vue-là, Paul est dans cette perspective du sexe faible qui doit être protégé par l'homme. Pourquoi ? Parce que le terme de soumission est on ne peut plus exact. C'est peut-être le mot le mieux traduit dans ce texte biblique. On verra que par ailleurs, il y a des choses qui peut-être, peuvent être modifiées. Le terme grec sous-jacent, c'est « hypo », donc « sous », hein, comme l'hypotension, c'est une tension qui est inférieure à ce qu'elle devrait être, et puis « tasso », qui veut dire « mettre ».« Mettre sous ». Et la soumission, au sens étymologique du terme, ce n'est pas autre chose que de mettre sous. Sous-entendu, alors il y a deux sous-entendus possibles. Le premier sous-entendu, c'est de dégrader, c'est de dévaluer, c'est de mettre la femme sous une dignité humaine, hein, en quelque sorte la sous-évaluer. Ça peut être compris comme ça. Soumise, ça veut dire qu'elle est en deçà de l'identité de l'homme. L'autre façon de comprendre être mis sous, et à mon avis c'est cette piste-là que Paul emprunte, c'est d'être protégé en quelque sorte, d'être mis sous la protection de quelqu'un. On va le voir tout à l'heure avec la question du chef, de la tête. Le couvre-chef, hein, le couvre-chef, c'est de mettre la tête, de mettre le chef sous le chapeau, et pour le protéger. Eh bien, il y a un petit quelque chose comme ça chez Paul. Oui.
Quand il dit « vous soumettant les uns aux autres
oui. »,
les uns aux autres, c'est du neutre. On ne dit pas « c'est l'homme ou la femme », là, ce n'est pas sexiste. Hein.
Non, c'est vraiment la réciprocité, oui. Ah, oui. C'est inclusif.
Et c'est la tête du chapitre. Hein.
Absolument. Je disais que c'est la clé d'interprétation pour toute la suite.
Bien sûr.
Oui, et bien souvent, ça, on le squeeze complètement. Femmes, soyez soumises à vos maris, c'est donc mettez-vous sous vos maris. Alors, ça peut être compris comme dépendez exclusivement, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'existence propre, vous devez vous mettre sous la coupe de votre mari. Ça peut être profiter de votre mari comme d'une protection pour, j'allais dire, éviter d'être au front, vous voyez ? Ce qui, de ce point de vue-là, est sexiste. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais c'est un sexisme, alors c'est l'homme qui parle, c'est un sexisme quand même sympathique, je trouve. Mais vous avez le droit de le contester. Le sexisme est toujours un problème. Non mais on est d'accord. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas une égalité, il n'y a pas de symétrie.
Pourquoi c'était sympathique pour une femme ?
C'est là que je pense que le dialogue est intéressant. C'est que je pense qu'en voulant faire bien, on fait du mal. C'est ça. C'est que derrière une bonne intention, qui est en quelque sorte celle de protéger, on induit un effet perverse qui est de dévaloriser. Qui est de dire, au fond, t'as pas la capacité d'eux, puisqu'il faut que je sois là pour. Alors, je sais pas, discutons-en un peu, oui. Ça, c'est effectivement un point de vue qu'on peut faire valoir, mais peut-être que ça peut être vécu autrement.
Oui, sauf que, il y a quand même une dimension anthropologique originelle.
Alors, une anthropologie originelle...
Il faut protéger Donc j'ai même au sens le plus animal, justement. Et l'homme, il est plus fort que la femme, musculairement. Tout à l'heure, on est déjà très fiers, on aurait bien vu l'homme en voiture, puisqu'il est d'accord. Déjà ça, c'est déjà rendre service, hein, si le monsieur veut bien.
Non, mais je veux bien tout, hein. Je suis là pour vous permettre le dialogue. Je me doute qu'aujourd'hui, ça va parler un peu plus que d'habitude. Je vous rends attentive et attentif au texte sur un aspect qui, pour moi, reste énigmatique. Je soulève cela et, en fait, peut-être que les hellénisants vont m'aider. Quand on regarde vraiment ce verset 22, il y a quelque chose d'extrêmement bizarre. C'est que c'est au pluriel. Alors, ce texte dit que les femmes doivent être soumises à leur mari au pluriel. En principe, on devrait dire « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Mais il y a plus que cela. C'est que le terme grec, c'est « andros », qui veut dire « homme ». Donc c'est « Femmes, soyez soumises à vos hommes ». Ce qui, bien sûr, peut être traduit par « mari », ça peut être une façon de désigner le mari, mais « andros », ça ne désigne pas forcément le mari, ça désigne l'homme en tant que masculin, être masculin. Alors, Stéphane, oui.
Excusez-moi de vous interrompre, mais après 22, c'est 23, il y a un point virgule, c'est la même phrase, et après c'est écrit car le mari est le chef de la femme.
Oui.
Donc on a effectivement un pluriel, puis un singulier dans la même phrase.
Alors.
Même si ce n'est pas le même verset, mais bon, c'est juste comme ça.
Oui, oui, mais c'est-à-dire qu'il y a une généralisation dans le verset 23. Mais le grec connaît la distinction entre le pluriel et le singulier pour les questions de propriété, puisque au verset 33, on aura que la femme respecte son mari après avoir dit que chacun de vous aime sa femme, et non pas ses femmes, ou que les femmes respectent leur mari au pluriel. Donc le fait qu'on ait un pluriel ici me pose question. Est-ce qu'on parle vraiment de conjugalité ou est-ce qu'on parle d'autre chose ?
Soldats,
soyez soumis
à vos chefs.
La discipline étant la première composante des armées.
Voilà.
Mais la parole respecte est aussi la parole avoir peur. La femme avoir peur de son mari.
C'est les femmes en général, soyez soumises à
son mari. Oui, oui. C'est-à-dire que la crainte du Christ, phobos, ça peut être la peur. Mais il me semble que dans ce contexte-là, ça va être rapporté plutôt à la question du respect, parce que ce qu'on appelle les craignants Dieu, c'est-à-dire les croyants, dans cette époque des christianismes primitifs, les craignants Dieu, c'est donc au sens littéral du terme ceux qui ont peur de Dieu, mais en fait ceux qui le respectent. Pas forcément ceux qui sont tétanisés par Dieu, ou alors tétanisé, mais aussi fasciné. Hein, c'est la dimension de l'expérience numérique.
Peut-être c'est un mot plus fort que simplement respect.
Oui. Donc, effectivement, il y a peut-être un autre contexte que le contexte purement conjugal. Et ça a peut-être rapport, effectivement, aux relations homme-femme par-delà la question du mariage. D'autant que la question du mariage, évidemment, il ne faut pas l'envisager telle qu'elle est comprise aujourd'hui. Le mariage aujourd'hui ne correspond pas à ce qu'était le mariage autrefois. Et on va le voir, il me semble que c'est justement sur ces questions-là que Paul va opérer des déplacements extrêmement modernes. Post-moderne, je veux dire d'une modernité qu'on n'a pas encore atteinte. Car le mari est le chef de la femme. Donc l'homme, aner, est le chef de la femme, c'est la tête. Hein, képhalé, c'est la tête, le chef, comme on a un couvre-chef. Il faut se rappeler que dans l'épître aux Éphésiens notamment, quand on parle de la tête du corps, on se réfère à l'idée que Jésus-Christ a été identifié comme la tête du corps Église. Vous êtes les membres d'un corps dont le Christ est la tête.
Alors, oui. Justement, à ce propos, le fait que tu compares, tu prennes comme comparaison de l'autorité du mari, celle du Christ qui est le chef de l'Église, du temps de Jésus, l'Église n'existait pas.
Ah non, absolument pas.
Jésus-Christ n'a pas fondé l'Église.
Jésus-Christ n'a pas fondé l'Église.
Non. En tous les cas, pas du point de vue protestant.
Par deux fois, il est question du Christ chef de l'Église. Mmh. Au verset 25,
oui.
Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église.
Mmh.
Alors, premièrement, l'Église n'existait pas pour Jésus. Donc, du temps de Paul, c'est du temps de Paul où après il y a des communautés et puis jusqu'à ce que Pierre vienne, etc. Mais est-ce que c'était déjà.
Disons que.
En tout cas, l'emploi de cette comparaison cloue toute discussion.
Non. Tu as raison et non. Faut bien que je pinaille un peu quand même. Tu as raison sur le fait que Jésus n'a pas constitué l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais la notion d'Église est bien antérieure à Jésus. On la trouve déjà dans le Premier Testament. Le livre biblique Qohélète, qu'on traduit souvent par Ecclésiaste, parle de l'Église. Parce que l'Église, c'est le mot grec qu'on a ici, Ecclésia, qui traduit le mot hébreu Kahal, l'Assemblée. D'où Qohélète, celui qui dirige l'Assemblée. Et donc, si on ne pense pas Église comme Église avec les synodes, avec les conseils presbytéraux, avec la curie, etc., mais qu'on se dit l'Église, c'est d'abord l'Assemblée de ceux qui se reconnaissent comme appelés par une parole qui les réunit, et ça peut être une ecclésia, ça peut être une Église de maison, ce qui était le cas à l'époque du christianisme primitif. Et même à l'époque de Paul, puisque en fait l'Église c'est un concept juif, et donc le fait d'être encore au sein de la synagogue n'empêche pas de pouvoir se référer à l'Église au sens de Kahal, l'Assemblée.
Enfin, du temps de Paul, il y avait Jérusalem, le temple,
oui.
Et puis il y avait les émanations grecques, disons, enfin des églises. Corinthe,
Éphèse,
etc.
Il y avait aussi.
Qui était ouverte aux
non-juifs. Ah, mais il y avait aussi les synagogues. Il y avait aussi les assemblées.
C'est une chose différente. Ça reste un élément. Il y avait ceux qui étaient restés attachés à la synagogue, enfin à l'église de Jérusalem, et puis les autres.
Je pense qu'il ne faut pas avoir une telle séparation entre ceux qui sont dans la mouvance de la prédication de Jésus et le judaïsme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu de rupture à l'époque pré-paulinienne. La preuve en est l'assemblée de Jérusalem qui réunit aussi bien les gens comme Paul qui vont, tu as raison de le dire, dans toutes ces émanations, disons, grecques, que la communauté primitive de Jérusalem, qui primitivement a dû être gouvernée par Jacques, le frère de Jésus, puis Pierre a pris le relais, avec aussi tout ce qu'il y a du côté de la Galilée, avec justement la communauté des Galiléens autour de la figure de Pierre. Et la figure de Pierre, c'est une figure éminemment juive, avec des églises qui sont en fait des synagogues. Et il n'y a pas encore eu l'expulsion de ces judéo-chrétiens hors des synagogues. C'est après, dans les années 70, d'ailleurs, quand il y aura finalement toute la révolte, la destruction du temple de Jérusalem, que là, le divorce va être consumé. Et qu'on aura les évangiles de Matthieu et Luc, même Marc.
On voit que Paul est accueilli à Antioche par une église, par une assemblée, qui est déjà une assemblée judéo-chrétienne. Enfin,
le fait d'être assemblée fait qu'il y a église. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas avec la structuration qu'on connaît de nos jours. C'est très informel, en quelque sorte. Mais c'est peut-être aussi notre idée de ce qu'est l'Église véritable, c'est-à-dire l'Église spontanée, qui se rassemble autour de la parole. Vous voyez, l'Église événement, l'Église kairotique, c'est-à-dire celle qui surgit comme cela, parce que d'un seul coup, il y a une prédication qui fait mouche. Et on se dit, oui, je suis de cet évangile-là. Et puis, d'ailleurs, c'était tout le problème, c'est qu'ici Ernest Renan qui dit « Jésus a prêché et l'Église est arrivée ». Et il disait cela de façon tout à fait heureuse. Et pour les protestants, c'est un drame, l'arrivée de l'Église, parce que ça a, en quelque sorte, entravé la puissance de l'Évangile. Voilà. L'Église au sens institution, pas forcément en Rome.
Bah, c'était la première vraie institution en sens.
C'est Constantin qui a dit par ceci.
Bah, oui, bien sûr, mais tous les évêchés étaient déjà des églises très constituées. Antioche, Alexandrie, Rome, évidemment. Ça fiche quand même. Vous voyez, à partir du moment où on dit qu'il y a des hérétiques, bon, bah, c'est qu'on commence à poser les frontières, quoi. Et on sent qu'il y a un hiatus par rapport à la prédication de Jésus qui essaie de casser les frontières.
Oui, puisqu'il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir. Ouais. Il y a un E majuscule.
Hein. Oui, mais ça, c'est une traduction. Dans le grec, il n'y a pas de E majuscule. C'est pour distinguer l'église institution de l'église bâtiment. Bon, on revient au texte ? Ok. Car le mari est donc le chef au sens de la tête. Vous voyez, un peu comme Christ peut être réputé la tête du corps Église. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est sauveur. Alors, c'est important parce que, effectivement, il y a une analogie entre ce que l'Église est au Christ et ce que la femme est à l'homme. Et c'est important, parce que si on comprend bien ce que l'Église est au Christ ou ce que le Christ est à l'Église, ça change un peu quand même la donne dans la relation homme-femme. Parce que dire que Jésus est le chef de l'Église ou la tête de l'Église, et qu'on se rappelle que Jésus s'est quand même fait serviteur, hein, il a pris la condition de serviteur, devenant homme, s'étant vidé de lui-même, allant jusqu'à mourir sur la croix, Jésus c'est comme celui qui lave les pieds de ses disciples, c'est celui qui fait preuve d'humilité. Et donc s'il y a ce rapport entre le Christ et l'Église, qui est une analogie au rapport entre l'homme et la femme, ça change un peu la nature de « femme, soyez soumise à vos maris ». Parce que s'il s'agit d'être soumis à son homme comme l'Église est soumise au Christ, qui en fait est son serviteur, vous voyez, ça change un peu l'idée qu'on peut se faire de la soumission.
Il faut rapprocher le verset 25 concernant les maris, parce que c'est la même chose. Marie aime vos femmes comme le Christ aime l'Église.
Oui.
C'est la même chose.
C'est la réciprocité.
Il y a le même rapport, cette fois-ci, entre l'homme et le Christ qui aimait l'Église. Mm-hmm. Moi, je trouve ça très perturbant.
Et l'Église qui aimait le Christ, plutôt. Et l'Assemblée qui aimait le Christ.
Ah oui. Je trouve que c'est plus un rapport. Ceci dit, c'est un texte qu'on pourrait essayer de renverser totalement, en mettant homme à la place de femme, et ainsi de suite, pour voir si ça marche. Et effectivement, ça pourrait très bien fonctionner aussi. La question est par exemple de savoir comment Christ est sauveur de ce corps. Eh bien, soit on a une idée du salut qui est dans une métaphysique qui conduit à après la mort, vous savez, avec l'image du paradis, de l'enfer, voire du purgatoire, si on veut sophistiquer les choses avec même les limbes. Soit, et c'est ce qui semble être quand même l'hypothèse la plus vraisemblable au regard des textes évangéliques, sauver au sens de donner du sens, c'est-à-dire sortir de l'absurde, voire sortir du chaos. Donner les moyens d'avoir une vie qui correspond à une véritable création vivable. Donc donner du sens au sens de donner sa raison d'être. Quand Paul va parler justement de cette image du corps avec les différents membres, il va bien dire qu'il y a une interdépendance entre tous les membres. C'est quasiment un sketch de Roland McDan d'ailleurs. Mais il n'y a pas un qui pourrait se dire « bon, moi je suis vraiment au-dessus des autres ». Ou alors c'est peut-être le plus insignifiant même, qui pourrait se dire être au-dessus des autres, comme Dietrich Bonhoeffer dira que, après Marx, que la force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Et il y a ici cette idée que le Christ est tête de l'Église en ce sens où il donne sa raison d'être. Et là encore, vous voyez, c'est finalement assez sexiste quand même. C'est-à-dire que Paul peut envisager que l'homme donne sa raison d'être à la femme. Il donne une bonne raison d'être. Mais ça va être neutralisé par la phrase qui suit le verset 25.
Moi, je me demande si parmi nous,
oui,
il y a quelqu'un qui ait dit à son mari ou à sa femme, « Je t'aime comme le Christ aime l'Église ».
Ça serait audacieux. Ça serait audacieux. Mais tu as absolument raison. C'est-à-dire qu'en mettant le doigt là-dessus, on voit à quel point Paul va beaucoup plus loin que notre conception moderne. Oui, Maxime.
Je trouve que c'est même comme le Christ aime l'Église. Comme l'Église aime le Christ, pardon, l'assemblée qui est réunie, les fidèles ont aimé le Christ et Dieu à travers le Christ.
Mm-hmm.
Je pense que c'est plus comme ça de ce côté-là qu'on peut voir.
Oui, ça peut être vu comme ça aussi, oui.
Mais si on sort du thème Église comme bâtiment, non.
Ah oui, bien sûr. Oui, comme communauté participant d'un même élan de foi, par exemple, et donc d'un même amour. Mais regardez le verset 25, qui est a priori tout ce qu'il y a de plus évident. « Marie, aimez vos femmes ». Mais qu'on remet le doigt sur ce que François vient de mettre en évidence. « Comme Christ a aimé l'Église ». Oui, c'est un amour qui n'est pas tout à fait celui dont on est capable au quotidien. Mais mieux que ça, mieux que ça. Notez bien que la question de l'amour est toujours pas dans le code civil. C'est-à-dire que le fait d'aimer son conjoint, c'est une exigence plus forte que ce que demande le code civil. Le code civil qui est dans le registre de la morale, c'est-à-dire en quelque sorte n'offensez pas votre conjoint, ne le blessez pas, voyez, maintenez la relation. Alors qu'ici on est dans l'ordre de l'éthique, c'est comment construire la relation. Comment construire cette relation avec votre conjoint s'il s'agit de conjugalité. Mais ici, l'amour, c'est donc l'amour agapé. L'amour agapé, c'est cet amour qui donne... Oui.
Juste après, il dit quand même, comme Christ a aimé son Église, il s'est livré lui-même pour elle.
Oui.
C'est une analogie, si on veut, par rapport au mari et sa femme, ça impliquerait que le mari se sacrifie un peu pour elle, quelque part, qu'il se mette en danger pour elle.
Livré, pas sacrifié. Enfin, sacrifié au sens biblique du terme, pas au sens contemporain. C'est-à-dire qu'effectivement, le sacrifice biblique, c'est le fait de donner, sans espoir de retour. Hein, c'est vraiment le don et non la logique de l'échange. Les sacrifices dans le livre du Lévitique, c'est un repas qu'on offre, sans chercher à obtenir autre chose en échange. C'est une reconnaissance, c'est une action de grâce, pour prendre le terme. Et la livraison dont il est question ici, c'est ça. C'est on donne. C'est pas au sens où je me sacrifie, c'est-à-dire que je tire un trait sur ma vie au profit de quelqu'un d'autre. Voyez le sacrifice au sens où on sacrifie la mère pour sauver le bébé, par exemple. Souvenons-nous que ce que Jésus dit, c'est « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime ». Donner sa vie, pas donner sa mort. Hein? Et donc c'est bien l'histoire de l'engagement total, c'est bien de ne pas en garder sous le coude qui est en jeu ici.
Là, c'est un engagement total contre le mari.
Oui. Oui, c'est ça. Il me semble, mais je suis content de ne pas être le seul à le dire. Ça m'aide. Ouais, c'est ça, c'est l'axe.
En dictionnaire, engagement et soumission, on ne peut pas dire la même chose. Non.
Alors, mais on peut prendre le dictionnaire, le problème c'est que le dictionnaire, sur cette histoire, ne va pas nous aider. Je reprends toujours cet exemple. Vous êtes dans les années 70. Vous parlez de la cohabitation, c'est un homme et une femme qui vivent ensemble et qui ne sont pas mariés. Vous êtes en 1986, c'est un président de gauche avec un premier ministre de droite, la cohabitation. Je veux dire par là que les sens des mots changent. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument voir par rapport au contexte ce que ça dit. et qu'il faut vraiment mettre les versets les uns avec les autres. Et que peut-être que l'un de nos torts a été de prendre ces petits bouts de versets en plus pour dire « Ah, quelle horreur !» Parce que précisément, à chaque fois, le fait de connecter à « comme le Christ a », ah ben, ça redéploie l'histoire en fait.
L'horreur, elle ne vient pas du texte en lui-même, elle vient de ce qu'on en a fait pendant des siècles.
On est bien d'accord. Voilà. Mais du coup, quand on veut se battre à coups de versets bibliques, on va prendre les bouts de versets bibliques pour justifier ses positions. Parce que, de toute façon, c'était une célébration publique, donc il n'y a pas de réserve à avoir particulière. J'assistais un jour à un mariage d'une relation qui était témoin de Jéhovah. Et le prédicateur a dit que c'était un décret divin, que non seulement l'institution du mariage, mais le fait que la femme doive en quelque sorte s'occuper du foyer et être celle qui prépare l'arrivée du mari. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a la possibilité, sur quelques bouts de versets, d'avoir une éthique qui, là, pour le coup, est contraire à l'esprit de ce texte. Donc pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, disons que Paul ne cherche pas à humilier la femme ou à lui attribuer une sous-condition humaine. Et puis soyons vigilants à l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est de recréer de la réciprocité pour nous. Mais à son époque, le mariage, la femme n'avait pas son mot à dire. Si, c'est réciproque, mais c'est pas symétrique. Mais vous voyez, quand on, comme ça a été fait, quand on se dit les hommes doivent se livrer pleinement à leurs femmes, eh bien en fait, c'est supérieur à l'idée de soumission. C'est-à-dire que c'est une sorte d'abandon de soi. Et de ce point de vue-là, la liturgie catholique du mariage dit juste par rapport à la liturgie républicaine du mariage. La liturgie républicaine dit « Est-ce que vous acceptez de prendre pour époux ? Est-ce que vous acceptez de prendre pour épouse ?» Et tout le monde dit oui. Et en fait, il faudrait dire « Ah non, non, je ne prends pas, je reçois. » Et c'est ce que dit la liturgie catholique. « Je te reçois » ou « Je t'accueille comme mari, comme femme. » Vous voyez, c'est foncièrement différent. Donc effectivement, on se livre, mais on ne prend pas l'autre. Quelle brutalité ! Et oui. Oui.
J'ai une question très générale par rapport à Paul.
Oui.
Mais si là, Paul, ce texte n'est pas un texte métaphorique, ou du moins il n'en a pas l'air comme.
Il utilise quand même des métaphores, à savoir le Christ.
Ouais, mais d'une manière, on a l'impression que c'est sans faire exprès. Et il voulait s'expliquer, c'est des textes plutôt explicatifs.
Oui.
Alors pourquoi il n'a pas expliqué un petit peu mieux les différences entre. C'est le reproche qu'on pourrait faire à Paul, c'est que Jésus lui-même, quand il parlait de métaphore, il disait. Etc. Et vous parlez à vous. Alors que là, il se dit, c'est presque un texte philosophique, carrément philosophique. Et pourtant, on tombe facilement dans l'erreur. Est-ce que lui-même n'avait pas conscience que ses écrits vont être très, très, très mal interprétés ? Enfin, c'est tellement. Enfin, ça nous semble évident aujourd'hui, ça n'était pas à l'époque, mais c'est tellement évident que ça allait causer des problèmes monstres, comme dire. Dans d'autres religions, je veux dire, dans le Coran, il faut exterminer vos ennemis, etc. Mm-hmm. N'importe quel. Et les théologiens d'aujourd'hui étaient justifiés ça en disant, non, c'est pas au sens littéral, mais c'était des textes explicatifs, et non des textes métaphoriques. C'est là un peu le point de vue du bois.
Ouais. Disons que là, ce ne sont pas des textes métaphoriques, ce sont des textes qui utilisent des métaphores. Excuse pour. Pour mon côté jésuite, mais. Ouais. Dans la suite, il va y avoir une métaphore. C'est la métaphore baptismal ou du bain rituel. Et je te propose de te répondre sur cette métaphore-là pour voir comment elle fonctionne. Pour voir comment Paul bouge les lignes en gardant les lignes. D'ailleurs, c'est ce que certains vont reprocher à Paul. C'est, au lieu de faire la révolution, de faire table rase, c'est de garder certaines formes de l'ancienne économie, mais de les réinvestir, de les habiter d'une nouvelle manière. C'est-à-dire qu'il garde l'alliance, par exemple, mais il dit l'alliance, ça ne se fait plus par la circoncision, ça se fait par le baptême. Pour deux raisons, c'est que la circoncision, finalement, ça matérialise la chose, hein, puisque ça l'inscrit dans le corps, donc dans la chair, donc ça matérialise, alors qu'il s'agit de parler de quelque chose qui n'est pas purement matériel. Or, le symbole doit être de la même réalité que ce qu'il décrit. Et par ailleurs, la circoncision, c'est machiste. Et donc, ça n'inclut pas quand même 51% de l'alliance dans l'alliance. Et du coup, le baptême va permettre cela. Et ici, il va aller plus loin. Alors, voyons cela avec le verset 26. À quoi ça sert tout ça ? Ça sert afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alors, le baptême d'eau, en fait, ça, c'est une extrapolation de Louis II. Il n'est pas question de baptême dans le texte grec. Dans le texte grec, il est question de bain d'eau. Alors, vous allez me dire, un bain d'eau, c'est un baptême. Sauf que non. Paul a le terme pour parler du baptême. Il a le terme baptizein, quand il veut dire baptiser.
C'est pas une traduction selon. Ah non, c'est pas ça. C'est afin de la sanctifier après l'avoir purifié par l'eau et la parole.
D'accord. Ben, là, c'est plus juste parce qu'effectivement, c'est un bain d'eau sans utiliser le terme technique du baptême.
C'est une seconde révisée, 1989.
Très bien. Ça, ça doit être une Genève 78. Ah. Mais on est entre bons ou on ne l'est pas ? Bien. Alors, que dit Paul ? C'est que c'est par la parole que ça se joue. C'est-à-dire que le baptême d'eau va être métaphorisé. Le baptême... Non, je parle de baptême d'eau, je me fais contaminer par la traduction. Ce n'est pas un baptême d'eau, c'est un bain d'eau. Et le bain d'eau a une fonction très spécifique dans la culture de Paul, parce que le bain d'eau, c'est ce qui est utilisé pour purifier la femme, hein, ce qu'on appelle un mikvé, le bain rituel. C'est ce que la femme doit faire après chaque cycle menstruel, par exemple. Et c'est ce qu'elle doit faire avant la noce, avec... Des précisions très rigoureuses, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit sans tache, irrépréhensible, pour reprendre la traduction un peu malheureuse de Second, comme un sacrifice doit être sans tache, c'est-à-dire que si jamais vous avez une petite coupure, eh ben ça ne marche pas, parce que ça contamine le bain rituel. Donc vous voyez, il faut être dans un état impeccable sur le plan formel. Et c'est ça qui agace Paul, c'est que la forme n'est pas ce qui est décisive. Et ce qu'il dit ici, c'est que finalement, cette histoire de bain rituel doit être métamorphosée pour passer du rituel à l'éthique ou une nouvelle anthropologie. On a parlé d'anthropologie primitive tout à l'heure. C'est-à-dire que, au lieu de considérer que la femme est régulièrement impure, on dira que la parole est ce qui lui donne la structure nécessaire pour être un être définitivement libre. C'est-à-dire qu'on a une pratique juive qui, j'assume, condamne la femme à avoir des prescriptions rituelles pour être régulièrement à nouveau pure. Donc ça veut dire qu'elle est régulièrement impure. Paul neutralise cela en disant, une fois pour toutes, c'est pas au niveau matériel que ça se joue, et c'est par la parole que ça se joue, et la parole, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle instaure, ce qu'on dirait en termes psychanalytiques, un sujet. Donc une personne libre, douée de facultés, de compétences, autonome. Voilà. Et donc, tu vois, il utilise cette métaphore du bain rituel pour parler de l'émancipation féminine. Oui, mais sauf que le bain, comment dire, de nos jours encore, dans le judaïsme orthodoxe, c'est le bain d'eau, point. Et là, c'est la parole qui devient le vecteur de sens. Oui, mais le bain d'eau est rapporté au passé. De même qu'il n'y a pas baptême toutes les semaines. C'est-à-dire que nous sommes dans une église qui ne rebaptise pas. Même ceux qui ont été baptisés nouveau-nés. Parce que c'est une façon de dire que la dignité de l'homme, c'est un préalable. Et le baptême en régime protestant, c'est pas de dire que parce qu'on baptise quelqu'un, il devient enfant de Dieu. Le baptême dit, parce que tu es enfant de Dieu, je vais le mettre en évidence, je vais te le révéler par ce sacrement du baptême. Et donc, Paul va intégrer la notion de la parole comme cette instance décisive par rapport au rituel. Donc voilà comment il utilise les métaphores. Mais en ayant un discours qui n'est pas métaphorique. Il ne file pas une métaphore ici. Il utilise des analogies, disons. Oh, je sens la non-conviction absolue. Bon. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Ça vous semble peut-être une évidence, mais écoutez ce que Laurent Gagnebin dit sur la manière dont l'Église, par exemple, a humilié le corps. C'est-à-dire, on a fait l'objet du péché. Eh bien, dire que personne n'a jamais haï son corps, c'est en fait subversif. Parce que certains ont haï leur corps parce qu'on leur disait que leur corps était haïssable. Et que la chair, c'était le péché. Que la sexualité était évidemment abominable. Bon. Eh bien, ici, vous voyez, c'est là qu'il est fourbe, notre Paul. C'est que mine de rien, il instaure un nouveau rapport au corps en considérant que c'est acquis, alors que c'est précisément pas acquis. C'est d'autant moins acquis qu'on vient de dire que le corps devait nécessiter des actes de bain rituel, tellement il n'était pas pur. C'est le verset suivant qui m'intéresse, enfin la suite. « Parce que nous sommes membres de son corps », bon là, rien de bien... Enfin, c'est toujours, là pour le coup, c'est la métaphore qu'il a utilisée avec le membre et les corps qui est à nouveau filé. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Citation de Genèse, chapitre 2, verset 31. Et ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Eh bien, c'est là qu'il y a eu un grand malentendu dans l'histoire du christianisme. Parce que ce mystère, en grec, c'est « mysterion ». Et comment c'est traduit dans la Vulgate ? Hein ? Je n'ai pas entendu.
Métier ?
Non, pas métier. Vous allez comprendre pourquoi ça pose problème. Sacramentum. Et alors, du coup, on va essentialiser ce récit de l'homme et de la femme. Et du coup, le mariage comme sacrement va plonger ses racines dans ce genre de texte. C'est sacramentel. Alors que le mysterion, c'est en quelque sorte une mise en scène de la vie. Le mysterion, c'est pas quelque chose de mystérieux et d'incompréhensible. Le mystérion, c'est une sorte de théâtralisation de façon à prendre conscience de ce qui se joue et qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. Et parce que ça donne sacramentum en latin, eh bien on peut y trouver les racines du sacrement.
Dans la traduction de l'abbé Crampon,
oui.
C'est à la place de mystère, il y a sacramentum.
Dans la Vulgate.
Dans la Vulgate.
Oui, c'est sacramentum. Ouais. Alors je ne sais pas comment ensuite les exégètes catholiques ont traduit cela. C'est Jérôme. Mais on peut aussi constater que ce verset se rapporte surtout à la question du Christ et de l'Église. Et donc, vous voyez, on peut se dire quand même, Paul fait de la théologie avant de faire du droit social. Et ce qui l'intéresse, c'est la connexion qu'il y a entre notre rapport, disons, au Christ, et du coup notre rapport à l'autre. Hein, ce qui l'intéresse, c'est de dire que c'est notre rapport au Christ qui informe, qui éclaire notre rapport aux autres. Et ça va être vrai dans la suite du chapitre suivant. Donc, si on veut avoir des comportements machistes, ben, il faut lire autre chose que les lettres de Paul. Ou alors, il faut avoir une compréhension du Christ comme de la source du machisme, ou de Jésus comme d'un être réactionnaire. Certains doivent s'y employer, je présume. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Vous voyez, il y a une sorte de reprise du sommaire de la loi. Aimer son prochain comme soi-même. Et que la femme respecte son mari, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le terme « respecter » traduit le verbe « avoir peur, craindre, respecter ». Il faut quand même savoir que c'est phobos qui est derrière, phobéo.
La phobie du mari.
Voilà. Donc, en quelque sorte, il y a là la phobie du mari, effectivement, au sens plat du terme. Mais il faut se souvenir que c'est un verbe grec qui traduit l'hébreu « yara », et « yara » qui veut dire, effectivement, avoir peur, c'est aussi craindre, respecter.
Oui. Je trouve que ce verset 33, oui, le reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari, est quelque chose qu'on peut absolument accepter, pas choquer, et beaucoup plus. C'est une conclusion qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup plus compréhensible que tout ce qu'il y a avant.
Ce qui n'est pas interdit. Ce qui n'est pas interdit. C'est pas parce que c'est pas écrit dans la Bible que ça doit pas être fait. Alors.
Ah oui. On a été choqués en quelque sorte par tout ce qu'on a vu avant, notamment concernant la femme. Alors que le verset 32, qui est un peu une conclusion, est quelque chose qui est beaucoup plus, acceptable, compréhensible.
Carl ?
Moi, je trouve qu'il y a un élément qui m'apparaît, c'est que si ce texte est écrit par un homme, il peut effectivement lire, peut se projeter dans des hommes qui aiment leur femme. En revanche, c'est vrai que cette phrase est très ambiguë, que la femme respecte son mari avec l'idée de la peur. Peut-être que la peur, elle vient peut-être moins de la femme que du mystère que représente la femme. Il y a une certitude de la part de l'homme qui lit ce texte que ne comprend absolument pas ce que c'est que la mort d'une femme. Donc peut-être que justement, il se met dans l'idée qu'il ne peut pas parler à la place des femmes parce qu'elle n'a pas eu de bon.
Mmh. Il y a. Oui. L'homme règne mais ne gouverne pas. Oui. Bon, en fait, c'est difficile aussi de généraliser tous les cas. Il faut essayer de voir dans le détail comment les choses se jouent. Par exemple, on a tendance à dire que les textes de la Genèse développent un système patriarcal. Et souvent, on dit que c'est un système patriarcal parce qu'on parle plus des hommes que des femmes et qu'on a l'impression que c'est les hommes qui mènent l'histoire. Quand on regarde dans le détail, c'est loin d'être aussi vrai. Et puis effectivement, comme vous le dites, la question de l'engendrement est tellement prépondérante que dans une certaine mesure, il y a un système matriarcal évident, où ce sont les femmes qui finalement permettent à l'histoire de rebondir. Et on le voit par exemple dans la généalogie de Jésus sous la plume de Matthieu. Les hommes sont là quand il n'y a pas de problème. Hein, je veux dire, les choses sont comme un système qui s'enclenche bien. Et quand il y a une difficulté, alors le système est sauvé par l'apparition de ces femmes qui viennent remettre une pièce dans le système, en quelque sorte. Eh bien, il est difficile de dire que la Bible valoriserait un système purement patriarcal. Et que Paul soutiendrait ce système patriarcal. Alors c'est là peut-être qu'on peut convoquer les autres textes. Alors, bon, j'avais noté quelques références, mais je peux vous les évoquer parce que on les connaît tous. Il y a effectivement la femme, ça c'est dans l'Épître aux Corinthiens, la femme qui ne... Il est honteux pour une femme de parler dans une assemblée. Et puis... il y a l'idée que la femme ne doit pas être tête nue, disons. C'est dans des contextes très particuliers. En fait, ça me permet de répondre. C'est qu'une fois de plus, il faut se dire que celui qui écrit cette lettre ne s'attend pas à écrire un texte biblique. C'est-à-dire que quand il écrit à une communauté particulière pour régler un problème particulier. Donc il faut être calme sur... Non, non. Je dis que l'intention de l'auteur n'est pas de rédiger un enseignement universel valable en tout temps et en tout lieu. Il essaie de répondre à une question particulière. Et par exemple, quand on a les lettres sur les deux situations particulièrement critiques que je viens d'évoquer, c'est dans un contexte où, ce sont les historiens qui mettent cela en évidence, je n'y étais pas, il y avait une instrumentalisation des femmes, à travers ce qu'on appelait la prostitution sacrée, des femmes qu'on enivrait, des femmes dont on rasait la tête, et auxquelles on faisait jouer un rôle. Rôle de pitié, rôle de putain sacré, rôle de divinatrice, tout ce que vous voulez. Et Paul va justement neutraliser ces pratiques-là, à travers ce qui aujourd'hui peut paraître comme quelque chose d'inadmissible, le fait qu'une femme ne puisse pas prendre la parole dans une assemblée. Mais à côté de ça, il faut se souvenir que Paul a des collaboratrices, et même une femme apôtre, Junia, qui est une collègue de Paul, et qui, dans l'esprit de Paul, est une véritable collaboratrice, pas sa secrétaire ou je ne sais quoi. Mais ça a tellement été étouffé par l'histoire de l'Église, qu'on l'a redécouvert il y a juste quelques mois, avec un livre qui vient d'être écrit là-dessus, Junia, femme apôtre. Et parce que c'était inconcevable qu'il y ait une femme apôtre, alors que les premières femmes apôtres, après tout, c'est les maris, enfin les maris, Marie, M-A-R-I-E, qui viennent annoncer aux disciples qu'il y a eu résurrection. Mais ceci pour dire que si on essaie de comprendre l'intention de l'auteur, quel est le défi auquel il est affronté et ce qu'il essaie de résoudre, ça permet de voir qu'en fait, l'apôtre Paul ou le rédacteur de cette épître bouge un peu les lignes. Il casse pas le cadre, mais il permet en fait de sublimer l'époque. C'est-à-dire que on a une pratique, mais on va lui donner un autre sens. Ou alors on a une situation et on va l'orienter différemment. Et c'est ce qu'il va dire d'ailleurs ensuite de l'éducation des parents vis-à-vis des enfants. Il s'agit de réorienter, de redonner des impulsions, de redonner un nouveau point à atteindre. Peut-être qu'on a encore un peu de temps pour justement voir la fin. Hein ? Enfants, obéissez à vos parents. Alors, là en fait, on a... quelque chose qui est assez asymétrique par rapport aux femmes. Puisque obéir, c'est hupo et akouo. Donc, on peut dire que obéir, c'est être sous l'écoute. Hein, upo sous et akuo écouter. Et donc c'est se mettre sous la parole. C'est considérer qu'il y a une parole qui mérite que j'en fasse en quelque sorte mon vêtement. Une parole qui mérite que je m'en couvre, pour essayer de faire une métaphore. Okay. On a une symétrie par rapport à femmes, soyez soumises à vos maris. Et, bah oui, mais ici c'est enfants, soyez sous l'écoute de vos parents. Et une fois de plus, selon le Seigneur, quoi qu'ici, ce ne soit pas attesté dans tous les manuscrits. En curio, ça apparaît que dans quelques manuscrits, justement pour essayer de garder la symétrie. Car cela est juste. Alors là, il y a une difficulté, c'est au verset 2, on a une citation du livre de l'Exode. Exode 20, verset 12, on a la citation de la Septante, avec le verbe « timao », qui signifie « honorer ». Mais dans le texte hébreu, on a un verbe « kavad » Kavad, qui a deux sens finalement, ou du moins un sens avec un sens matériel et puis un sens figuré. Kavad, ça veut dire être lourd. Et le sens figuré, c'est honorer. Parce que celui qui est lourd, celui qui est opulent, c'est celui qui est glorieux. Vous voyez ? C'est celui qui a de la richesse. Donc il a de la gloire. Et donc, kavad, ça peut être aussi glorifié en quelque sorte. Et alors, le problème, c'est que quand on traduit en grec, eh bien, on garde un seul sens. On ne garde pas l'ambiguïté ou l'ambivalence. Or, et c'est ce que Daniel Siboni avait dit lorsqu'il était venu ici pour revisiter le décalogue, c'est que justement, si on garde le verbe hébreu sous-jacent, honorer son père et sa mère afin que ses jours se prolongent sur la terre que Dieu nous donne, d'où la promesse, c'est aussi bien reconnaître qu'ils sont nos géniteurs, reconnaître que nous ne sortons pas de la cuisse de Jupiter, disons, mais c'est aussi les charger, c'est-à-dire leur laisser ce qui leur appartient, c'est-à-dire ne pas s'encombrer de leurs problèmes ou de leurs soucis ou de leurs travers. Donc, honorer, c'est pas simplement se soumettre aveuglément à ses parents, c'est aussi leur laisser cette part d'héritage dont nous n'avons pas à prendre la succession. Parce que leurs problèmes sont leurs problèmes. Ou leurs fautes sont leurs fautes, par exemple. Donc il y a une histoire de procès à charge dans cette perspective-là. Et alors, là où on voit que c'est vraiment une citation de la Septante et pas du texte massorétique, c'est-à-dire du texte hébreu, c'est qu'au verset 3, on dit « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre ». Le « que tu sois heureux », ce n'est pas dans le texte hébreu. Si vous prenez votre traduction d'Exode 20, il n'est pas question d'être heureux. Il est juste question que nos jours se prolongent sur la terre que Dieu nous donne. Et évidemment que nos jours vont d'autant plus se prolonger que l'on sait d'où l'on vient. Et actuellement, on dit que pour savoir où on va, il faut mieux savoir d'où l'on vient. Et nos jours se prolongent d'autant plus qu'on ne se charge pas d'un fardeau qui n'est pas le nôtre. Donc, voilà, il y a ici, avec le texte grec, une sorte d'affaiblissement du sens originel hébreu. Je vous y rends attentif. Surtout qu'il y a quelques parents et grands-parents qui doivent faire attention à l'usage que l'on peut faire de ce verset. Restons calmes. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Alors là, c'est « paror gizo ». C'est pousser à la colère, en fait. Orgé, c'est la colère. Il faudrait pas que vos enfants explosent, en quelque sorte. Mais au contraire, il s'agit de développer ce que le texte grec appelle la paideia, hein, c'est-à-dire paidion, c'est enfant. Donc paideia, ça serait quasiment la science de l'enfant, qui donne la pédagogie. Puisque l'enfant ici est désigné par technon. Mais paidion, ça donne aussi enfant. Donc de la paidia, paideia, donc l'éducation des enfants, ce qui donne la pédagogie, et nutesia, ce qui est un peu un apax paulinien dans la Bible, donc on n'a pas d'équivalent dans d'autres textes bibliques. Nutesia, c'est les avertissements donc, du Seigneur. L'idée, c'est quoi? C'est que l'éducation, c'est plutôt attirer vers quelque chose que de pousser. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la contrainte que la séduction. C'est-à-dire donner de bonnes raisons d'avoir envie d'apprendre, d'avoir de bonnes raisons d'avoir envie d'adhérer à ceci ou à cela. Alors que la contrainte va en fait pousser à la colère qui ne permettra pas à l'enfant d'acquérir ce qui lui sera nécessaire pour la suite. Disons que Paul a ici une sorte d'approche assez libérale de l'éducation. Ce qui ne veut pas dire que ce soit le seul modèle. Mais l'idée, c'est l'avertissement, vous voyez, c'est la mise en garde. C'est en quelque sorte remettre en perspective. Non pas « tu ne réussiras à rien, mon fils ou ma fille ». Ou c'est pas comme ça que... Bon, éventuellement, c'est pas comme ça que... Mais c'est plutôt de permettre à l'enfant de prendre conscience des conséquences de ses actes et de ses choix. C'est-à-dire être une conscience auxiliaire. Et dans une certaine mesure, les textes bibliques disent « le divin » ou les archives bibliques constituent pour nous une conscience auxiliaire qui nous permet de mettre en perspective nos choix, nos actions, nos paroles. C'est-à-dire prendre conscience des conséquences que ce que je dis peut avoir. C'est pour ça que j'ai pris un peu des gants sur cette première question de « femmes, soyez soumises à vos maris » pour savoir comment c'était reçu. Et je crois que c'est Walter Benjamin qui disait « Le problème, c'est qu'on n'est jamais conscient de ce que nos paroles ont comme effet. Il y a toujours un décalage entre ce qu'on imagine avoir dit et ce qui a été entendu par l'autre. Bon, » ben voilà, cette idée-là. Du reste, que chacun... en les corrigeant, en instruisant selon le Seigneur, et vous voyez comme... Jésus est celui qui a fait quasiment un travail de sage-femme, c'est-à-dire faire accoucher l'Évangile. Quand il dit « ta foi t'a sauvé », il met en évidence quelque chose qui est déjà à l'œuvre chez la personne. Et lui, il se contente, en quelque sorte, de faire venir cela au monde. C'est pas qu'il inocule, il inculque pas. Vous voyez, il y a une pédagogie qui est d'inculquer les valeurs. Eh bien, là, c'est plutôt l'éloge de la caresse. Permettre que les choses s'épanouissent, qu'elles viennent au monde. C'est plus socratien. Ensuite, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Alors, serviteur, c'est une mauvaise traduction. C'est esclave. Esclave au sens où c'est doulos, par opposition au diakonos, qui est plutôt le serviteur. Les diacres ici sont des diakonoi, donc sont des serviteurs et pas des esclaves, ce n'est pas les boniches. Ici, on parle des boniches en quelque sorte, mais des boniches au sens méprisant du terme. Non, les esclaves sont ceux qui ne sont pas des êtres libres, ne sont pas affranchis. Hein, c'est les esclaves, les douloi. Obéissez à vos maîtres. Curios. Ah oui, ça c'est bizarre. Parce qu'au verset 4, curios, on l'a traduit par seigneur. Et au verset 5, curios, on le traduit par maître. Et en fait, c'est le même terme. Bon, ceci pour vous rendre attentif au fait que c'est assez artistique, les traductions. Il faut, avec le contexte, savoir si effectivement on parle du Seigneur, c'est-à-dire du Christ, ou si on parle du Seigneur comme le maître. Voilà. Mais du coup, on peut parler de Jésus comme du maître. Je crois que c'est Pierre-Yves Ruff qui parlait de Jésus comme du maître de l'Évangile, par exemple. Donc ici, serviteur, obéissez, donc c'est toujours soyez sous l'écoute de vos maîtres selon la chair. Sous-entendu, vous avez aussi des maîtres qui ne sont pas selon la chair, peut-être selon l'esprit. Autrement dit, vous qui êtes esclaves, sachez qu'il y a des maîtres au-dessus de vos maîtres. Ce qui va relativiser un peu les choses. Avec crainte et tremblement, donc c'est à nouveau la peur, phobos, et puis le tremblement. Que l'on a assez souvent chez Paul. Crainte et tremblement, c'est une expression paulinienne. c'est la manifestation face au sacré. C'est Rudolf Otto, hein, quand il écrivait sur le sacré, disait, eh bien, quand on est face au sacré, il y a à la fois de la fascination et puis de la terreur, hein, crainte et tremblement. C'est un peu cette idée-là, je crois.
Est-ce que crainte ne pourrait pas être traduite par stupeur ?
Non. Enfin, oui, oui, si, si, on peut traduire par stupeur, mais bon. C'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est savoir l'idée qu'on a derrière, quoi. Pour Kierkegaard, ce sera plutôt le concept d'angoisse. Dans la simplicité de votre cœur, on pourrait quasiment dire l'innocence de votre cœur, une fois de plus rapporté à Christ. Et alors là, ça c'est intéressant. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'avoir, de faire cela pour une question de paraître. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de l'anneau de Gyges, c'est chez Platon cette histoire. C'est l'anneau qui rend invisible. Et enfin, l'idée, c'est que quand on est invisible, on devient un être amoral. Parce qu'il n'y a plus le regard de l'autre. Et du coup, on s'autorise des choses qu'on ne s'autorise pas en public. Bon, je ne vous rends pas à ce que vous faites chez vous dans votre alcôve quand il n'y a personne qui vous regarde, mais l'idée est la suivante. C'est que le regard de l'autre a un pouvoir coercitif qui, des fois, nous tétanise, mais des fois, nous aide aussi à être meilleurs, parce qu'il tient lieu de conscience aussi. Et, la figure de l'autre nous renvoie à une exigence. Bon. Eh bien là, il dit « Soyez en quelque sorte parfait sans avoir besoin d'un regard coercitif. » Donc ça ne doit pas être une question de paraître. Vous devez être un être moral parce que c'est là votre vocation personnelle, votre être intime en fait. Et vous en êtes capable. Vous n'avez pas besoin qu'un autre vous observe, soit en quelque sorte votre évêque. L'épiscopos, l'épiscopé, c'est le surveillant. C'est le contremaître. C'est celui qui vérifie que ça file droit. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'évêque. Et du coup, il institue les esclaves comme des personnes qui n'ont pas besoin de surveillants. C'est-à-dire que ce sont des êtres au sens plein du terme, des sujets à nouveau. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Donc vous voyez, on sublime l'ordinaire, pour reprendre la formule d'Emerson, ou de Picon. Ou de Théodore Monod d'ailleurs aussi. Servant le Seigneur et non des hommes, c'est, je crois, vraiment le sens de l'éthique par rapport à la morale. Il ne s'agit pas de faire le minimum, mais il s'agit vraiment de faire de la maxime de nos actes une loi universelle. Et donc, c'est l'histoire de la vocation. C'est ce que Luther disait. Tu es cordonnier, ben, y a rien de fâcheux à cela. Simplement, il faut que tu fasses tes chaussures pour la gloire de Dieu. Et donc, tu les fais de façon excellente. Donc, aujourd'hui, on dirait vulgairement, il n'y a pas de saut métier. Eh bien, pour le dire positivement, c'est ce que nous le faisons à la plus grande gloire de Dieu. Et c'est en ce sens que ça devient bon et intéressant. On ne se contente pas de faire notre job, on remplit notre mission. Et on remplit pas, on n'exécute pas notre fiche de poste, on effectue notre mission. Donc, servez-la avec empressement comme servant le Seigneur. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Là, c'est une traduction qui est un peu hasardeuse. On pourrait plutôt dire que c'est le Seigneur qui délivre le bien aussi bien aux esclaves qu'aux hommes libres. Ce n'est pas l'idée de la rétribution. C'est qu'il y a une prodigalité du bien indifféremment aux esclaves et aux hommes libres. Ce qui parle d'une égale dignité, en fait. D'ailleurs, j'ai loupé un terme important au verset 6. Ouais. Le verset 6, c'est un terme important parce que quand on dit qui font de bon cœur la volonté de Dieu, c'est qui font la volonté de Dieu de leur psyché, de leur âme. Les esclaves ont une âme. Ouais. Vous voyez, dans les débats, il a fallu attendre les années 60 du XXe siècle pour qu'on dise que les femmes avaient une âme. Paul reconnaissait que même les esclaves étaient une âme, avaient une capacité à se tenir devant Dieu, avaient un être intérieur, qu'ils pouvaient dire « je ». C'est en ce sens que Paul est bien plus avant-gardiste que nous ne le sommes parfois.
Il y avait quand même une conscience antique avant Paul, chez Sénèque par exemple, sur les esclaves. Ce sont des êtres humains. Enfin, il y a
oui.
Une voix, des voix qui s'élèvent quand même dans le stoïcisme.
Absolument. Oui, il y a toujours un risque à considérer qu'on a l'exclusivité, etc. Paul n'est pas le seul, effectivement. C'est comme l'éthique. Les chrétiens n'ont pas le monopole de l'éthique bonne. Mais on ne serait pas chrétien si on n'avait pas une éthique bonne, disons. Mais on n'est pas les seuls à être capables d'aimer, quoi. On est bien d'accord. Oui, c'est juste, bien sûr. En plus, Paul n'a pas forcément la science infuse. Il y a des choses qu'il réexploite, qu'il réinvestit. « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. » Autrement dit, il n'est pas partial. Vous voyez, tout le monde est finalement relié à un maître supérieur. C'est-à-dire que, ici, Paul relativise la prétention que certains voudraient d'être le supérieur. Eh bien, on a ici une unité. On a au début, soumettez-vous les uns les autres, et à la fin, nous sommes tous reliés à une instance. Nous sommes tous également reliés à une instance. Donc ça relativise la prétention des uns à vouloir dominer les autres, et relativise aussi l'idée que les uns auraient qu'ils devraient être naturellement subordonnés aux autres, et qu'ils n'auraient pas de liberté propre. Ça leur permet de réinvestir leur histoire. Bon, là, je dis peut-être un peu plus que ce que Paul a dit, mais c'est là-dessus que ça nous oriente. Il ne faut pas en rester à l'état de Paul. Vous voyez, Paul bouge les lignes, et bien à nous de continuer à les bouger. Il ne faut pas garder en tête que Paul, ce serait la sédimentarisation d'un âge d'or. Paul est comme un vecteur qu'il faut translater. Il a initié des choses, et bien on continue. On continue à tracer le sillon. Et on fait peut-être même mieux que Paul. Il n'y a pas de raison de s'en tenir à ce qui a été fait il y a 2000 ans. Bien.